Sosoglo sosodo
Elolé.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission panafricaine au Fenêtre sur l'Afrique et merci à nos radios partenaires FM Liberté Radio Dénibon qui passent exclusivement cette édition. À mes auditeurs de la diaspora et spécialement togolaise, il y a quelques mois, la diaspora parlait du consensus de Chicago devant plancher sur les recherches de solutions à la grave crise qui secoue le Togo depuis de longues années. De ce consensus est né un mouvement politique dénommé Diaspora togolaise indépendante. À mes auditeurs, dans cette édition de ce soir, une interview exclusive avec le coordonnateur nous édifiera sur les réels objectifs de ce mouvement politique. Eh bien, le monde entier a célébré le 3 mai dernier la journée mondiale de la liberté de presse. Comment se porte la liberté de presse au Togo? Eh bien, à mes auditeurs, le journaliste Carlos Kitou a réagi au micro de notre correspondant au Togo. Entretien à suivre donc dans quelques minutes. Et merci de nous être fidèles sur le 3xW FM Liberté Radio Dénibon. Trois jours de réflexion autour de la refondation de la République. Consensus de Chicago a publié une partie de ses résolutions de ses assises il y a quelques jours. Ce qui frappe à l'œil à mes auditeurs, tout de suite, c'est la décision de se constituer un mouvement politique, Diaspora Togolaise Indépendante. Nous en parlons avec Alain Folie, coordonnateur de ce mouvement politique. Il est en ligne depuis les États-Unis. Alain Folie, bonsoir.
Bonsoir Amos. Je salue les fidèles auditeurs et auditrices de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de nous suivre ou d'être avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, émission que vous connaissez très 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 bien. Alors, une des résolutions sorties du consensus de Chicago, c'est de se constituer un mouvement politique TDI, Diaspora Togolaise Indépendante. Alors, mais avez-vous l'intention à l'avenir de se constituer en parti politique?
Oui, bien cher Amos, la DTI ou la Diaspora Togolaise Indépendante n'est pas un parti politique. Et laissez-moi vous faire une confidence. Durant les travaux du consensus de Chicago, il n'a pas du tout été question pour la diaspora de constituer un parti politique. D'ailleurs, aucun des participants n'a osé effleurer cette question. Pas du tout. Nous ne sommes pas un parti politique et nous n'avons pas l'intention d'en constituer une. En revanche, tout au long de ces assises, il s'est clairement dégagé l'idée de la nécessité d'un engagement politique de la diaspora. Donc, la diaspora a pris sur elle d'influencer, et très positivement d'ailleurs, l'aboutissement du processus démocratique au Togo. Et la voie la plus indiquée pour la diaspora, c'est de déclencher un mouvement politique citoyen. Et tout mouvement politique, d'une envergure que ce soit, doit avoir une structure organisée à sa tête. Et c'est justement le rôle de la DTI, qui est notre véhicule d'action politique. Maintenant, la différence entre le parti politique et le mouvement politique se situe justement au niveau de la finalité de leurs actions respectives. Donc, de manière simple, il faut dire que les partis politiques légalement constitués ont pour première ambition de participer aux élections, donc de conquérir et d'exercer le pouvoir politique. Et donc, c'est essentiellement sur cette question de participation aux élections que notre mouvement politique diffère d'un parti politique. Donc, l'ambition de la DTI n'est pas de participer aux élections. Il est vrai que nous avions entendu par-ci, par-là, avant et durant les assises, des gens nous accuser que nous avons l'intention d'aller aux élections de 2020 et que nous avons un candidat derrière nous. Et ce sont des fabulations très graves. Et il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que nous sommes financés par le H-Kroon. Et personnellement, j'avais eu à invectiver l'auteur de ces affirmations sur les réseaux sociaux pour faire comprendre aux gens qu'il n'en est pas question. Donc l'ambition de la DTI, je le répète, n'est pas de participer aux élections. Et je vais vous donner l'exemple du MCA. Si vous vous souvenez, avant les élections de 2010 au Togo, Monsieur Philbert Sassou-Atisso et le député Nicodème Habia avaient mis sur pied un mouvement politique qu'ils avaient appelé le mouvement citoyen pour l'alternance. Ils n'avaient pas du tout l'ambition de se présenter eux-mêmes ou de proposer des candidats aux élections. Leur ambition, c'était d'amener le pouvoir à garantir et à respecter la crédibilité du processus électoral et à proclamer des résultats conformes au suffrage exprimé par le peuple souverain. Finalement, aujourd'hui, il est vrai que Nicodème Habia est à la tête d'un parti politique qu'il a cofondé et qui s'appelle le Parti des démocrates. Philbert Atisso, de son côté, aussi a monté un autre parti politique qu'on appelle le Togo autrement. Mais nous ne sommes pas dans ce schéma. Nous ne sommes pas sur cette voie-là. Parce que à la DTI, nous avions compris et nous sommes conscients que les régimes dictatoriaux ou autocratiques aiment souvent s'accommoder d'une opposition systémique, une opposition ultra-divisée et découdée qu'ils peuvent contrôler et manipuler à leur guise. Par conséquent, l'ambition de la DTI est d'être une structure non manipulable, capable non seulement de parer à la prolifération des partis politiques, mais aussi et surtout de défendre la dignité du peuple togolais.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions, mais pourquoi avoir adopté cette forme en mouvement politique et qu'est-ce qui fait donc son originalité vis-à-vis des organisations diasporiques déjà existantes, Alain Folie?
Écoutez, nous ne dénions pas le mérite des groupes engagés de la diaspora avec lesquels nous travaillons comme GFSA, MNM, CCD, Sursaut Patriotique, le CMDT, etc., qui ont été même invités à prendre part aux assises du consensus de Chicago pour renforcer une certaine unicité d'action de la diaspora. Mais au-delà de ces groupes, ce qui fait l'originalité de la DTI par rapport aux autres organisations diasporiques, c'est notre engagement politique, qui est contraire à la politisme qui les caractérise et leur engagement souvent social ou économique. Beaucoup d'entre elles sont des organisations d'entraide sociale, très actives à l'occasion des fêtes, de la célébration de baptême, de mariage, d'anniversaire ou de décès. En clair, pendant longtemps, notre diaspora, au sens large, s'est illustrée comme une société civile expatriée qui envoie d'importantes sommes d'argent dans l'économie togolaise mais demeure très peu dynamique sur le terrain politique. Alors, l'originalité de notre mouvement politique réside dans notre refus de la fausse image de pompe à argent pour emprunter les mots du docteur Yves Kouya-Maïso et exprimer avec solennité notre engagement à jouer un rôle politique plus prépondérant jusqu'à obtenir une alternance politique véritable au Togo, en vue d'une meilleure contribution de notre diaspora au développement du pays. C'est pourquoi la DTI reste ouverte à l'adhésion de tous les groupes et à tous les individus qui s'identifient à la diaspora indépendante.
Alain Folie, et parlons justement de ce mouvement politique sorti de cette résolution du consensus de Chicago. Quelle est donc votre définition de la diaspora indépendante? Bon, elle est indépendante vis-à-vis de quelle diaspora donc, Alain Folie?
Oui, je trouve cette question de la définition de la DTI on ne peut plus pertinente, dans la mesure où nous l'avions déclaré publiquement à qui voudrait l'entendre, que nous sommes une diaspora spécifique dans la diaspora au sens large. Donc, dans la diaspora au sens large, ou lato sensu, comme on dit en latin, nous avons généralement, ou bien pratiquement tout le monde, tous les expatriés qui arborent une même nationalité. Et, au contraire, au sens strict, nous avions identifié au cours du consensus de Chicago trois types de diaspora dans le contexte togolais. La DTI, par exemple, diffère d'un premier groupe que nous appelons la diaspora alignée, c'est-à-dire celle-là qui est complaisante vis-à-vis du pouvoir et qui soutient donc toute action gouvernementale moyennant des promesses de postes, des décorations ou des pièces sonnantes trébuchantes, etc. Il y a un deuxième groupe que nous identifions comme une diaspora silencieuse. Eh bien, c'est celle-là qui se caractérise par l'autocensure, ou bien qui, à cause de la peur ou autre raison inavouée, ne dit rien et ne fait rien par rapport au statu quo qui sévit sur tous les plans dans notre pays. En définitive, la diaspora indépendante, c'est celle qui s'investit dans l'action politique pour influencer un changement de paradigme sur tous les plans où le besoin s'impose. C'est cette diaspora, par exemple, qui croit qu'il est grand temps que le Togo soit gouverné par des principes véritablement démocratiques, tels que la représentativité ou la limitation de mandat. Pour la petite histoire, je vais vous dire que je n'ai pas été nommé pour être le coordonnateur général de la DTI. Nous avions fait une élection en bonne et due forme et dans la transparence. Ce sont donc ces valeurs démocratiques et éthiques qui caractérisent justement notre action politique.
Eh bien, se référant à votre communiqué sorti il y a quelques jours, Alain Folie, qu'entendez-vous par marathon démocratique et éthique, dans le cadre duquel vous voulez vous engager pour servir le peuple togolais?
Effectivement, par marathon démocratique et éthique, dans le cadre de notre engagement, eh bien, il faut dire que nous sommes conscients de l'importance de notre crédibilité vis-à-vis de tous les acteurs susceptibles de nous aider ou de nous baliser le chemin, que ce soit à l'interne, c'est-à-dire auprès des autres membres de notre diaspora, ou que ce soit au niveau des acteurs les plus influents de la communauté internationale. C'est donc une question de bon sens que de se respecter avant de réclamer le respect de l'autre. Nous avons des valeurs éthiques à défendre. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes politiques recto verso, comme dirait quelqu'un, qui vont se laisser corrompre quand la situation nous arrangerait et revenir jouer à l'opposition quand le pouvoir nous tournerait le dos. Nous sommes donc bien avisés de l'autre côté que d'autres ont commencé cette lutte avant nous et que nous n'allons pas réinventer la roue. Néanmoins, nous parlons de marathon démocratique pour nous inscrire surtout dans la durée. C'est un engagement dynamique de la diaspora qui n'entend pas fléchir ou faiblir jusqu'à ce que la démocratie prenne complètement le pas sur la dictature dans notre pays.
Toujours dans votre communiqué sanctionnant la fin des travaux du consensus de Chicago, vous parlez de valeur ajoutée. Alors pourriez-vous nous expliquer votre principe de création de ces valeurs ajoutées et de richesse et valeur ajoutée sur quoi concrètement, Alain Folie?
Par rapport à cette question de valeur ajoutée, je peux dire que contrairement à la diaspora des pays anglophones comme le Nigeria ou le Ghana, les transferts financiers de la diaspora togolaise ne rentrent pas dans la création d'entreprises ou autre forme de création de la richesse. 90% des ressources financières de notre diaspora rentrent dans la satisfaction des besoins immédiats de nos familles, à défaut d'un système de sécurité sociale adéquat dans notre pays. Il est même impossible à l'autorité gouvernementale de récupérer ces fonds et de les réorienter vers des investissements productifs dans les secteurs vitaux de l'économie nationale. Les Américains ici ont l'habitude de dire que avec chaque dollar que tu dépenses, tu choisis d'être riche ou pauvre. Donc l'argent que tu dépenses dans l'habillement ou dans l'alimentation ne crée pas de la valeur ajoutée. La diaspora togolaise indépendante a donc pour ambition de s'éduquer et d'éduquer nos populations à penser à l'investissement productif, à la création d'entreprises, la création de la richesse de manière inclusive, c'est-à-dire à maîtriser les liens étroits entre l'économie des ménages et la macroéconomie. Bon, bien chef Amos, moi je suis juste un juriste hein, spécialisé dans les affaires commerciales internationales ou les échanges internationaux. Donc un économiste comme Dr. Yves Ekweyamahizo, qui est l'auteur d'ailleurs de ce concept qu'il a développé durant notre consensus, serait mieux habilité à nous décortiquer cette notion de valeur ajoutée dans le contexte de la création de richesses par la diaspora togolaise. Je profite donc de cette occasion pour demander à nos auditeurs et à nos auditrices de jeter un coup d'œil sur la brillante présentation de notre expert sur le site internet le www.cvu-togo-diaspora.org. Donc je reprends la présentation qui clarifie bien cette notion par Dr. Amahizo. On peut la retrouver sur le site internet du www.cvu-togo-diaspora.org.
Adhésion à l'alternance politique, lobbying proactif dans les pays d'accueil, amélioration du mieux-être du peuple togolais, partenariat avec les forces républicaines civiles, politiques et militaires du Togo, urgence de bâtir un état de droit, etc. Alain Folie, quelles sont vos priorités pour affronter le combat démocratique? Alors, tout ceci ne ressemble-t-il pas à du réchauffé? D'aucuns seraient même tentés de vous demander quoi de neuf sous le soleil.
Quoi de neuf sous le soleil? En tout cas, tout à fait justifié, cette posture des autres organisations ou individus qui ont mené de front cette lutte avant nous. Nous les saluons patriotiquement et avec toute la déférence due à la qualité de leur engagement. Pour ceux qui ne sont plus, que la terre leur soit légère. Ceux qui sont parmi nous, les vivants, nous les invitons à nous soutenir parce que le Léviathan qui a hanté le sommeil de notre peuple pendant plus d'un demi-siècle a la vie dure. Mais le temps est venu pour nous de lui sonner le glas. Ce qu'il y a de neuf dans notre combat, c'est d'abord sa dimension spirituelle. Les membres du comité d'organisation du consensus de Chicago ne se sont pas levés ex nihilo à l'orée du cinquantenaire de la dynastie des Nyasimbe juste pour crier « 50 ans, c'est trop ». Au-delà de ce constat amer, il faut dire que Jean-Pierre Balikpo et moi-même avions eu des visions nocturnes complémentaires, nous demandant de nous engager sérieusement pour le salut de notre peuple. Donc, derrière notre engagement, il y a une dévotion totalement sacerdotale. Il faut dire que c'est cette dévotion que nous voulons communiquer à toute la diaspora indépendante, qui est celle que Dieu a choisie pour venir à bout de ce régime. Ceux qui ont participé au consensus de Chicago peuvent témoigner que notre détermination est sans faille et que notre engagement est indéfectible. On dit que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Nous parlons de lobbying diplomatique proactif aujourd'hui parce que après nos démarches, nous nous sommes rendus compte que la portée de ce lobbying a été relativement faible par le passé parce que nos responsables politiques étaient beaucoup plus mus par le financement de leur chapelle plutôt que le combat démocratique en tant que tel. Sur ce plan donc, tout est à refaire. Alors, sous le soleil, le facteur temps a son rôle à jouer.
Alain Folly, dans les jours ou semaines à venir, quelles vont être vos actions concrètes? Quelle stratégie mettrez-vous en place pour une adhésion massive de la diaspora à votre initiative, puisqu'on parle aussi de mobilisation, de sensibilisation au niveau de la diaspora togolaise?
Oui, sur le plan de la mobilisation de la diaspora derrière notre initiative, je dois dire, Sylvain Amos, que nous sommes très, très réalistes. Nous savons que nous avons du pain sur la planche. Il faut dire que nous avions commencé cette mobilisation depuis le lancement par Akwete Balikpo d'une pétition au nom de l'USDCT qui exigeait, entre autres, le retour de la Constitution de 92 et la démission ou la non-participation de Faure Gnassingbé aux élections présidentielles prochaines. Nous avions recueilli près de 2000 signatures, soit environ 0,2% de l'effectif escompté. Maintenant, avec l'organisation du consensus de Chicago, nous croyons avoir suscité un peu plus d'engouement des membres de la diaspora silencieuse et surtout de la diaspora indépendante. Donc, beaucoup ont commencé par s'intéresser davantage à la lutte. Ceux qui avaient baissé les bras entre-temps sont en train de reconsidérer aussi leur position. Nous n'allons donc pas dormir sur nos lauriers. Il faut dire que le train de la diaspora togolaise indépendante a bien sûr pour point de départ la ville de Chicago, mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle ne va pas s'arrêter ici. Nous allons nous déplacer vers les villes de concentration de notre diaspora et organiser des assises et des assises pour expliquer aux uns et aux autres non seulement le bien fondé de notre mouvement, mais aussi organiser des ateliers de formation et de sensibilisation de la diaspora dans la création de la valeur ajoutée au plan local et sur le territoire national, et ceci de manière inclusive. Donc, beaucoup de nos concitoyens, par le passé, se sont investis dans cette lutte avec leurs moyens financiers, mais parce qu'ils n'ont pas obtenu le résultat escompté, ils se sont découragés. Donc, nous les encourageons à recommencer parce que, en fait, nous n'avons pas le choix.
Eh bien, Alain Folly, nous sommes tentés de vous poser cette question. Hein. Comment se traduiront vos actions sur le terrain au Togo? Alors, quelle va être votre attitude vis-à-vis des forces de changement, des partis politiques, organisations de la société civile engagées au Togo?
Eh oui, c'est une question très délicate pour le moment. En ce qui concerne l'action concrète de la DTI, la diaspora togolaise indépendante, sur le terrain politique au Togo. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes un mouvement politique. Et par définition, nous sommes alimentés par des membres de tous les partis politiques d'opposition. En conséquence, nous sommes condamnés à travailler ensemble et non à collaborer comme certains le prétendent. Cette nuance est très très importante pour notre engagement. Néanmoins, je dois avouer qu'il est encore trop tôt pour ma modeste personne de vous délimiter tous les contours de nos rapports avec les partis politiques sur le terrain. Je suis à la tête d'un bureau provisoire qui a un mandat de 6 mois pour jeter les bases de l'action politique de la DTI. Nous avons des commissions qui vont se pencher sur la question et nous dire à l'avenir ce qu'il y a lieu de faire. Je veux ici envoyer également un salut patriotique à toutes les organisations de la société civile qui ont d'ailleurs envoyé à la dernière minute une délégation conduite par Monsieur Sena Aluka au consensus de Chicago. Je voudrais les rassurer que nous respecterons notre engagement à leur côté pour asseoir la démocratie et impacter le développement de notre pays. En définitive, nous sommes condamnés à travailler avec toutes les forces républicaines qui luttent véritablement pour une alternance politique au Togo.
Alain Folly, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder. Alors, quel sera votre mot de fin à la diaspora togolaise?
Pour finir, nous voulons exprimer toute notre gratitude à Radio Kanalka et ses partenaires, ainsi que vous-même, bien cher Amos, pour avoir accepté, à travers votre émission Fenêtre sur l'Afrique, de porter très loin l'écho des résolutions du consensus de Chicago. Nous en profitons pour lancer un appel à tous les Togolais qui se retrouvent dans l'esprit ou la philosophie de la DTI de ne pas hésiter à prendre le train en marche. Nous saluons tous les participants au consensus de Chicago et nous invitons tous les membres de la diaspora à nous rejoindre au sein de la DTI. Que Dieu nous bénisse et bénisse le Togo.
En tout cas, merci beaucoup Alain Folly, coordonnateur de TDI, diaspora togolaise indépendante, ce nouveau bébé et qui vient de naître, mouvement politique. Donc, je veux dire merci et merci également à vous qui avez suivi cet entretien exclusif. Et on ne peut que souhaiter bon courage et bon vent à ce nouveau bébé. Merci et bonsoir.
Soso glosso sodo Elole.
14 avril 1967, 14 avril 2017. 50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit.
50 ans de dictature là, ça suffit.
Assassinats politiques, crimes économiques, cabésie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assert de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vainc dans la dignité. Ceci est un message de la Coordination des Mouvements et Associations de la Diaspora, GFSA, en Suisse, Cause Commune, au Canada, USDCT, aux USA, Mouvement Mobilisons-nous, aux USA, Patriotes Togolais, aux USA, Groupe Sursaut Patriotique Togo, aux USA.
Oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, milagro welo, oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, milagro
Le combat continue, la lutte continue, le combat continue, la lutte continue. Tant que ces inconscients refusent de partir là, on va jamais baisser les bras. Tant que ces dictateurs refusent de céder là, on va jamais baisser les bras, on va les démontrer. Que nous sommes déterminés, on va les démontrer, que nous irons jusqu'au bout. Nous sommes allés trop loin pour reculer, il n'y a plus question de marche arrière. Devant les bombardements, nous allons résister. Devant les gaz lacrymogènes, on va supporter. Devant les policiers et gendarmes, on va résister, le combat continue. Oui, je suis Amen Jassissé. Je salue tous mes frères combattants de la liberté, sans oublier Amos de la radio Canal K depuis la Suisse. Rastafari.
Amis auditeurs, amis panafricains, comme nous le disons en tout début de cette émission, le monde entier a célébré le 3 mai dernier la Journée mondiale de la liberté de presse. Occasion pour les hommes et femmes de médias de réinterroger cette liberté qui souffre dans des pays d'Afrique et du monde entier où des journalistes sont victimes de prédation, privation, intimidation, emprisonnement, assassinat, etc. Le Togo fait-il la différence? Comment se porte la liberté de presse au Togo? Eh bien, notre correspondant Rodrigue Aïgou a tendu le micro de votre émission Fenêtre sur l'Afrique à Carlos Komlavi Kitowu, directeur de publication du journal Indépendant Express. Il est également président du patronat de la presse du Togo, PPT. Je vous propose de suivre cet entretien exclusif.
Carlos Komlavi Kitowu, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Indépendant Express, également président du patronat de la presse togolaise. Bonsoir.
Bonsoir Rodrigue, bonsoir Canal K.
Alors, le 3 mai dernier, le monde entier a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. Quel regard portez-vous sur la presse togolaise dans son ensemble?
La presse togolaise est une presse qui tente de s'épanouir, qui tente d'émerger, mais qui est aussi contrainte par des pesanteurs qui ne facilitent pas cette émergence, cet effort d'émergence. La presse togolaise, c'est celle qui est dans le parcours quotidien du combattant pour survivre face à un grand nombre de défis, notamment les défis économiques, les défis liés à l'ingérence politique et les défis liés à l'existence même au sein de cette presse, de certains obstacles qui empêchent son évolution. Mais la presse togolaise, dans son ensemble, se bat pour survivre, surtout comme je l'avais dit, mais également contre ce qu'on appelle des prédateurs, des oppresseurs, ceux qui ne veulent pas voir une presse totalement épanouie comme dans d'autres pays, qui puisse faire vivre son nom. Donc voilà, caricaturé, la presse togolaise telle que je l'ai observée depuis un an, et telle que nous aurions souhaité la changer, la transformer. Et en fait, la presse togolaise, c'est celle qui est constamment mise en cause par la rapidité de l'information sur les réseaux sociaux et la pluralité de ces informations. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux Facebook, avec les réseaux WhatsApp et autres, les informations vont à la vitesse de la lumière et les informations sont ponctuées. Des images, des audios, des vocaux qui font qu'il faudrait avoir un sixième sens, si je peux le dire, pour faire la sélection de l'information qui puisse intéresser le public, qui puisse intéresser les cibles, parce que les cibles qui sont connectées sur les réseaux sociaux apprennent à la minute près, même à la seconde près, ce qui se passe dans le monde, au Togo et en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'il faut servir à son lectorat, à son éditorat, pour que on soit convaincant vis-à-vis de cette presse qui a le devoir d'informer.
Alors, dites-nous, dans ce contexte, est-ce qu'on peut parler de liberté de presse au Togo?
Oui, je l'ai effleuré dans mon intervention. La liberté de presse devrait être effective si on laissait libre cours à la presse d'exercer, si on ne transforme pas les instruments et les institutions qui sont censées réguler cette presse et jouer le rôle régalien qui est le leur, notamment protéger cette liberté, protéger les journalistes, ouvrir les portes aux journalistes pour qu'ils puissent avoir accès à l'information et se départir des actions et politiciennes. Être autonome, comme on le dit par exemple avec la HAC, être autonome. Mais malheureusement, nous constatons que ce sont ces institutions qui constituent plutôt des instruments de prédation de cette presse. Vous n'êtes pas sans savoir que en 2016, nous avons connu la fermeture spectaculaire de deux chaînes, Radio City FM et LCF du groupe Sud Média. Et ça, on aurait pu éviter cela. Je l'ai toujours dit, parce que au lieu d'aller jusqu'à la limite de l'affrontement et fermer, on pourrait trouver une formule pour préserver cette liberté où les journalistes, des gens qui sont des employés, puissent continuer à bénéficier de leur emploi. Mais c'était possible d'éviter la situation radicale de fermeture. Vous savez également, en 2016, nous avons connu des agressions de journalistes. Nous avons connu certaines lois qui ont été émises, notamment la loi liberticide qui est contenue dans le nouveau code pénal, article 497, où le journaliste est passible de prison. C'est une loi qui prend d'ailleurs le contre-pied du code de la presse qui est dépénalisé. Vous voyez un peu la contradiction. Donc, ce sont des actes qui ne permettent pas à une certaine presse de bénéficier d'une certaine liberté. La liberté de la presse, c'est quand la presse est autonome. Quand la presse est indépendante. C'est quand la presse est libre d'exercer. Mais il y a aussi, à côté de tout cela, et des contraintes financières qui ne permettent pas à la presse d'être assise comme une véritable entreprise. La presse vit notamment de la publicité, des annonces, comme la plupart des sociétés ou des entreprises. Mais quand on a une tendance critique, ce qui est normal quand on est journaliste, on devrait dénoncer les travers de la société, dénoncer la corruption, dénoncer la mauvaise gouvernance. Mais si on prend cette tendance à travailler honnêtement, et professionnellement pour dénoncer ces faits, alors on est comme dans la ligne de mire des autorités togolaises. On ne bénéficie pas de publicité, on ne bénéficie pas d'annonces et on est comme ciblé par une asphyxie financière, ce qui ne permet pas à la presse d'éclore. Donc je pense que la liberté de presse n'est pas assez effective au Togo, parce que d'abord les autorités ne permettent pas cette liberté, les autorités qui sont éclaboussées par différents scandales économiques et financiers ne veulent pas être dénoncées, donc font tout pour que cette presse reste à la limite en berne par rapport à ces dénonciations. Et ça déjà, c'est un indicateur de la violation de la liberté de presse. Et par ailleurs, et l'asphyxie dont j'ai parlé, et également même en son sein, il y a des facteurs endogènes au niveau de la presse elle-même qui ne veut pas s'épanouir. Parce que vous voyez les clivages qu'il y a au niveau de la presse togolaise, avec d'une part des journaux qui sont devenus des instruments de communication du pouvoir et qui sont là peut-être à critiquer, à s'attaquer à d'autres confrères qui critiquent les dérives au niveau de l'État. Ça, c'est déjà un problème qui se pose. Alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, des journaux ont des tendances différentes, mais sauf l'essentiel qui est le journalisme, qui est le métier. Mais on n'a pas cette culture au Togo. Elle consiste plutôt à s'attaquer, à vilipender le journaliste qui adopte plutôt un ton critique qu'on ne partage pas en fonction peut-être de son adhésion à une certaine cause politique ou idéologique, ce qui n'est pas normal. Et ce facteur également tue la presse. Donc c'est un facteur endogène à côté des facteurs exogènes, étrangers, qui sont liés à la volonté du pouvoir même de réprimer cette presse.
Alors, vous écoutez tout à l'heure, ça nous renvoie vers les conclusions des états généraux de la presse tenus à Palimé, organisés par le gouvernement, où on devait parvenir à relever le défi du professionnalisme. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que vous venez de peindre ce tableau, on peut dire que le fruit porte le ver?
Le ver est dans le fruit, comme on le dit. Et parce que, d'abord, le PPT, notre organisation, avait boycotté les états généraux qui sont tenus dans un simulacre rocambolesque que nous n'avons pas accepté à Palimé. Parce qu'il y avait justement ce clivage qui avait été organisé par la ministre d'alors, Madame Kouméa Louanaté. Et elle avait tendance à choisir ses journalistes, ceux qu'elle préfère comme ceux qui peuvent travailler avec elle, ceux qui peuvent contribuer à l'émergence d'une presse, ces organisations. Donc, elle s'est engagée dans cette logique-là. La conséquence est directe, nous l'avons constaté. Depuis 3 ans, les conclusions ou recommandations des états généraux ne sont jamais mises en œuvre. Le comité technique qui devait être mis en place, ou le comité de suivi, n'a jamais fonctionné comme il faut. Et les difficultés qu'on a relevées à ces états généraux restent toujours les mêmes difficultés sur les tapis. Donc, logiquement, il faudrait trouver une autre formule de refondation de la presse togolaise en définissant des critères. Vous savez, le monde évolue. Et les innovations, les mutations, tout ce qui permet de faire les changements s'impose à toutes les structures. Depuis 3 ans, ce qui a été dit reste aujourd'hui caduque par rapport à l'actualité. Donc, il faudrait redéfinir une nouvelle façon d'orienter la presse vers le professionnalisme. Il est vrai que quand on dit orienter la presse vers le professionnalisme, cela ne veut pas dire que la presse n'est pas professionnelle. Les journalistes se battent. Aucun journal ne peut se dire qu'aujourd'hui, moi, je vais décider de violer les règles de déontologie. Mais c'est dans des conditions difficiles qu'on tombe dans ces travers, que des journalistes tombent dans ces travers. Je vais vous donner un exemple. L'accès à l'information. Si, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, vous tentez d'avoir une information officielle qui devait vous être donnée, vous prenez attache avec les attachés de presse, vous prenez attache avec les directeurs de cabinet, vous prenez attache avec certains ministres, et que vous n'avez jamais pu avoir ces informations. Mais, parfois, on est tenté de donner l'information qu'on a. Et quand on donne cette information, les autorités, se mobilisent, déclenchent leurs allergies pour dire que, bon, voilà, vous avez donné une fausse information. Et pourtant, pendant plusieurs mois, le journaliste a tenté d'avoir accès à cette information. Et pourtant, je pense qu'il y a une loi qui exige des autorités de donner des informations de peur ou bien au risque de se faire poursuivre. Je ne sais pas où en est cette loi. J'ai déjà demandé ou posé la question au ministre de la Communication qui m'a promis de me donner les détails, mais à ce jour, il ne m'a pas donné. Ça, c'est aussi un problème de l'accès à l'information. Donc, on ne peut pas incriminer directement les journalistes de n'avoir pas véritablement fait des recoupements, fouillé pour avoir les vraies informations de façon complète. On ne peut pas les incriminer, étant donné que on a classé toutes les informations, même les informations banales et officielles, on les a classées dans le secret défense, ce qui n'est pas normal. Donc c'est un problème pour le professionnalisme. Et si on se comporte dans un pays où les autorités ne peuvent pas lâcher prise, ne peuvent pas donner libre cours à l'information, aux journalistes qui vivent de cela. Les journalistes vivent de l'information. Même sur les terrains de reportage, si on n'est pas capable de pouvoir avoir toutes les informations, prendre les images comme il faut, là, il y a un problème. Il y a un problème de liberté d'exercice de la profession. C'est pourquoi, moi, je dis, il faut trouver la formule de la refondation de la presse. Définir les différentes responsabilités à chaque niveau. Au niveau des journalistes, au niveau des autorités togolaises, au niveau des organisations de presse, et même au niveau d'autres acteurs, notamment les lecteurs, les téléspectateurs, et les auditeurs. Voir comment il faut trouver la formule pour que toutes ces personnes puissent contribuer à l'émergence d'une presse libre, responsable et d'une presse crédible. Parce que la presse est crédible quand elle est dans l'objectivité, quand elle dit la vérité conformément à la déontologie. Mais si on transforme l'aspect objectif de la profession en communication, en louant les bienfaits de tel ministre, de telle autorité, parce que ils ont bien fait, et pour se mettre à contre-pied de ceux qui critiquent les dérives, là on ne fait plus du journalisme. On fait de la communication. Donc, il faudrait se départir de ces aspects laudatifs et dithyrambiques qui vont dans le sens de louer une personnalité, une institution, un parti politique, qui vont dans ce sens plutôt que de donner l'information qui doit servir à la population, qui doit être même servie à toutes les cibles qui sont en fait nos partenaires.
Alors, vous avez parlé de cas de violence sur des journalistes, vous avez également parlé de prédation, vous avez parlé de beaucoup de difficultés. Alors, vous, en tant qu'organisation, que faites-vous concrètement pour lutter contre ces phénomènes?
Nous avons interpellé, vous n'êtes pas sans savoir que de par le passé, il y a quelques mois, depuis le début de cette année, nous avons interpellé les autorités sur les cas graves de dérive de prédation. Nous avons sorti des communiqués pour dénoncer certains cas de violence faits sur les journalistes par les forces de sécurité, par certaines personnalités et tout cela. Nous avons dénoncé les difficultés qu'il y a à pouvoir exercer le métier. Nous avons interpellé l'autorité sur la subvention de l'État, de l'aide de la subvention de l'État à la presse. C'est nettement insignifiant au Togo, comparativement à d'autres pays. C'est un devoir constitutionnel de l'État de financer la presse. C'est contenu dans la Constitution. C'est contenu dans les codes, dans les textes. Mais pourquoi il faut se rechigner à donner de l'argent pour que les journalistes puissent fonctionner? C'est vrai que la presse ne pourrait pas compter ou bien ne devrait pas compter sur l'argent de l'État, la subvention de l'État pour exister. La preuve, c'est qu'on donne 100 millions quand on répartit cette aide aux différents organes, c'est à peine 800 000 que les journaux ont par an. 800 000 francs, je me dis ici, ce n'est pas deux parutions, ça fait trois parutions pour un journal responsable. Vous comprenez? Sur toute une année. Donc c'est insignifiant, totalement insignifiant. Donc je me dis, ce sont des difficultés que les journalistes vivent au quotidien et les organisations de presse, notamment le PPT, nous avons dénoncé cela à plusieurs égards. À côté de la dénonciation publique à travers des déclarations et des communiqués, nous avons approché des autorités. Nous avons approché des responsables d'institutions. Nous avons approché le ministère pour lui dire qu'il y a mal à la demeure et que le journaliste a des difficultés pour pouvoir exercer. Mais est-ce que nous sommes écoutés? Nous ne sommes pas écoutés. Mais vous allez comprendre quand, et au lieu d'appliquer peut-être la loi de réponse, du droit de réponse à l'endroit de la HAC, au lieu d'épuiser les recours de la HAC, les recours qui sont contenus dans le code de la presse, on va convoquer le journaliste devant la direction de la police, devant le service de renseignement, devant le tribunal, devant le juge d'instruction. Vous voyez, on est en train de dévoyer le respect au texte pour de l'illégalité, pour de l'illégitimité, ce qui n'est pas normal. Ça veut dire que on ne place pas la fonction de journalisme dans son contexte légal. On essaie de corser les sanctions et même d'aller à la limite tenter de jeter le journaliste en prison pour pouvoir se protéger et intimider les autres qui sont encore enclins à critiquer la mauvaise gouvernance, à critiquer les dérives de l'État. Donc je me dis, les organisations jouent leur rôle de part et d'autre, les journalistes aussi jouent leur rôle, mais c'est l'autorité qui est le véritable problème en matière de liberté de presse.
Alors, aujourd'hui, certains observateurs pensent que l'information ne s'arrête qu'à Lomé. Clairement, ils soutiennent que les journaux publiés n'arrivent pas à atteindre l'intérieur du pays, ce qui fait que, arrivé à l'intérieur du pays, on se retrouve forcément dans un autre pays où il n'y a pas, on est en déphasage avec ce qui se passe dans la capitale ou ce qui est dénoncé ou apprécié par les journaux. À quoi cela est dû?
Oui, il y a 3 ans, j'étais à une formation aux États-Unis où un éminent journaliste, Bob Woods, nous exposait le risque de la disparition de la presse papier face à l'évolution des nouvelles technologies, notamment de l'Internet. Et c'était aux États-Unis, parce que la menace était réelle il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, la menace est réelle ici aussi. Et je le dis pour faire la comparaison, pour dire que aujourd'hui rien ne peut arrêter l'information. Les réseaux sociaux, vous savez, quand il y a des troubles à Dapan, quand il y a un accident à Notier, quand il y a des troubles à Mango, quand il y a des manifestations à Palimé de part et d'autre, automatiquement nous avons les informations, nous avons les images à la seconde près. Donc l'information maintenant est nettement diffusée, relâchée et déclenchée. Donc on ne peut plus arrêter l'information. C'est comme un ouragan qui est en train de déclencher, qui est en train de faire des ravages. Donc, ce n'est plus possible qu'on dise que l'information s'arrête à Lomé ou s'arrête dans un coin donné. Les journaux font l'effort. Je sais, en ce qui me concerne et d'autres organisations ou bien d'autres organes de presse, que nous envoyons nos publications dans les grandes villes. Palimé, Atatpamé, Sokoné, Kara, Dapan. On fait l'effort d'envoyer, même s'il y a parfois des écarts d'une journée ou bien de 2 jours avant que les journaux ne parviennent, il y a cette façon traditionnelle, mécanique, de faire lire nos journaux à l'intérieur du pays. Il y a également des radios dans presque toutes les localités qui essaient de relayer ce qui se passe à Lomé dans les émissions débats, dans les revues de presse. Donc l'information est déjà partagée. Mais je sais que vous voulez parler un peu de ce que on appelle la messagerie. Dans d'autres pays, c'est bien organisé. En Côte d'Ivoire, vous savez, c'est bien organisé. Quand vous publiez vos journaux, vous allez déposer ça dans la centrale de messagerie. Le journal est convoyé jusqu'à l'intérieur du pays. À la fin de la semaine, vous allez faire le recouvrement. C'est beaucoup mieux organisé. Mais au Togo, c'est traditionnellement organisé tout simplement parce que les organisations n'arrivent pas à s'entendre sur ce principe pour mieux diffuser ou vendre les journaux. C'est vrai, il y a un petit problème que je regrette souvent, c'est que au niveau de la presse, il y en a qui vivent des recettes de vente. Donc, eux, toutes les semaines, en fin de semaine, ils sont obligés d'aller chez les vendeurs, les grossistes, pour prendre la part de vente et relancer une nouvelle parution. Mais il y en a également qui ne vivent pas forcément des recettes de vente. Ils produisent le journal et distribuent. Ils ne reviennent pas aux grossistes. C'est une réalité. Et cela ne peut pas s'entendre avec ceux qui vivent des recettes de vente pour engager une messagerie dans laquelle il faut investir. Vous me comprenez? Donc, c'est ça le réel problème. Et malheureusement, peut-être que ceux dont je parle, qui ne sont pas dans la même logique de commercer, de faire une, d'en faire une entreprise financière, mercantile, de faire de la presse une entreprise comme celle-là, ne peuvent pas, sont d'abord plus nombreux et ne peuvent pas s'engager dans une logique dynamique de messagerie. Peut-être, quand il y a la messagerie, c'est juste pour donner à certains lecteurs de l'intérieur du pays qui vont s'en régaler sans contrepartie. Alors que nous sortons de l'argent pour produire ces journaux. Nous payons, nous avons des charges, l'électricité, nous payons un personnel de part et d'autre. Donc il est très important qu'on s'engage dans cette logique de messagerie. Je me rappelle, dans les années 2000, avant la mort d'Adema, il y avait une initiative comme cela qui avait été portée par certaines organisations. On aurait engagé quelques centaines de millions, mais on ne sait pas ce que ces projets sont devenus. Et ça a été relancé par d'autres organisations, même encore plus récemment. On a essayé de plancher là-dessus, mais on ne sait pas à quoi cela est dû. Peut-être il faudrait chercher les causes réelles et de voir ce qui empêche véritablement cette messagerie qui puisse permettre aux populations de l'intérieur de lire les journaux en temps réel. Mais dans tous les cas, je me dis que l'information aujourd'hui est lâchée et à travers les réseaux sociaux, les gens lisent tout ce qui se passe ou tout ce qui est écrit dans la presse à Lomé. Donc l'information ne s'arrête plus à Lomé.
Alors, dans ce cas, avec l'évolution des technologies de la communication, de l'information, est-ce qu'il n'y a pas une sorte, ou il n'y a pas de crainte d'une sorte d'anarchie par rapport à l'information, du moins genre, qu'on ne pourra plus contrôler cette information censurée ou comme on le fait d'habitude?
Oui, c'est dans ce sens-là que je dis que ça appelle à la responsabilité, à la perspicacité du journaliste qui est dans l'obligation d'être plus exigeant et plus cohérent, plus convaincant dans la diffusion de l'information. Parce que, avant de publier le journal, vous paraissez peut-être un lundi ou un mardi, tout le week-end, toutes les informations qui sont passées, politique, économie, et société, et tout ça là, ces informations sont déjà diffusées sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, comme vous le dites, se sont engagés dans une certaine anarchie dans l'information. Donc c'est aux journalistes, à l'organe de presse, de pouvoir faire une certaine célérité pour dire exactement ce qu'il faut de nouveau. Parce que l'information, c'est ce qu'il y a de plus nouveau, c'est l'événement. Donc si on dit il y a eu débat entre Macron et Marine Le Pen, le débat a eu lieu hier, mercredi, et lundi à l'apparition, vous parlez encore de ce débat, vous serez en retard sur l'information. Parce qu'entre-temps, l'élection de scrutin se déroulera déjà dimanche, avant que vous ne paraissiez. Donc, il y a cette anarchie-là, et donc ça interpelle encore plus au travail, à la responsabilité et à la célérité de la part des journalistes, pour que on ne relaie pas d'abord tout ce qui circule sur le net, parce que ce n'est pas tout ce qui circule qui est vrai. Il y a beaucoup du fake, de fausses informations, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de montages d'informations. Donc on ne peut pas se fier à ces informations. Il faut suffisamment recouper ces informations et il faut avoir des preuves beaucoup plus tangibles et concrètes. Parce qu'il faut faire très attention. Vous allez voir que face à des événements, il y a des gens qui vont sortir des images qui datent de 2 ans ou bien des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux pendant plusieurs mois. On ressort ça pour illustrer un nouvel événement. Et si on tombe dans ces travers-là, mais vous imaginez la crédibilité qu'on perd en le faisant. Donc, l'anarchie ou la dictature des réseaux sociaux interpelle encore beaucoup plus le journaliste à la responsabilité, à la célérité et à la crédibilité, à donner beaucoup plus d'informations, mieux d'informations et d'informations qui puissent être encore au-delà de l'information que tout le monde sait déjà diffusée sur les réseaux sociaux.
Alors aujourd'hui, dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale de la liberté de la presse, on comprend qu'il y a la question de responsabilité qui engage autant les journalistes que les autorités. Alors, quel appel avez-vous aujourd'hui en tant qu'organisation à l'endroit, que ce soit des hommes et femmes de médias ou des autorités, afin que cette liberté de la presse soit effective au Togo?
D'abord, à l'endroit des journalistes, il n'y a pas de miracle, on ne va pas réinventer la roue. Et il y a un code qui réglemente le métier du journalisme. Il y a un code de déontologie, il y a un code de la presse, il y a des textes nationaux et internationaux qui régulent le métier. Il faut respecter ces tests, être dans l'objectivité, et donner des informations dont on a les preuves, donner des informations vraies, ne pas s'engager dans une logique d'attaque et de protection des idéologies de façon fanatique. Ne pas s'engager dans des informations qui troublent l'ordre public ou qui attisent le tribalisme, et le racisme et la violence. Donc, rester dans un sens beaucoup plus responsable, dans une logique de professionnalisme. C'est ça qu'il faut. Et quand on respecte la loi, Montesquieu le dit, l'obéissance a des règles qu'on s'est prescrites, et liberté. Mais quand on respecte cela, on est libre, on peut obtenir cette liberté. Et à l'endroit des autorités, je pense que elles ont la lourde responsabilité d'accompagner l'émergence d'une presse libre et indépendante. En cessant toute manipulation, toute manœuvre destinée à créer des clivages entre les journalistes, toute manœuvre créant une asphyxie des organes de presse parce que critiques, et également en acceptant les dénonciations légitimes que font les journaux, que ce soit les radios, la presse écrite et les télévisions, en se donnant le devoir de comprendre qu'en ce faisant, les journalistes ne sont pas en train de s'attaquer à une institution de façon béate, de façon gratuite pour ce faire, mais c'est dans le sens d'attirer l'attention sur certaines choses qui risquent de créer des situations préjudiciables à la nation que nous avons tous le devoir de protéger. Je ne vais pas aller dans les détails pour dire que il y a des combines de coulisses qui se font où on finance certains journaux, certaines radios pour faire de la publicité, de la propagande au pouvoir en place ou à des personnalités. Je ne vais pas aller dans tous ces détails-là, mais l'autorité a le devoir et la responsabilité de loger tous les journalistes à la même enseigne. Le président de la RAC, dans une rencontre avec les organisations, a été clair là-dessus. Monsieur Pitanchala nous a dit à l'époque que tous les journalistes doivent être logés à la même enseigne. Et si, sur le terrain, nous ne le constatons pas, là, c'est que, il est en train de ravaler la parole qu'il a donnée. Donc, il doit faire l'effort, que ce soit au niveau de la RAC, au niveau du ministère, au niveau des autorités, la présidence et les ministères, la primature, il faudrait que chacun puisse se dire que la presse joue un rôle qui préserve l'État, qui protège la nation et qui essaie de faire éviter certaines situations préjudiciables à l'apaisement. Vous connaissez l'histoire de Mille Collines, vous connaissez le rôle joué par les médias en Côte d'Ivoire, par exemple, qui ont déclenché des situations de guerre. Et de plus en plus, avec le thème de la journée internationale de cette année, où on interpelle les journalistes à rester dans un sens critique et à protéger et tous les aspects liés à l'apaisement et ou à préserver la paix et la stabilité. Et je pense que les autorités ont l'obligation de comprendre que les médias ont un grand rôle à jouer et ils doivent être protégés pour pouvoir jouer ce rôle. Les journalistes sont aussi comme les forces de l'ordre et de sécurité. Si on leur donne les moyens, ils vont bien travailler. Mais si on ne leur donne pas les moyens, ils peuvent pas travailler. C'est une question de moyens, c'est une question de responsabilité de l'État. À l'endroit du lecteur, des auditeurs et des téléspectateurs, je pense qu'il est également important de comprendre que le journalisme est investie d'un pouvoir d'informer, de former et d'éduquer. Et si il arrive que le journaliste tombe dans les travers, c'est que l'erreur est humaine. Il faut en excuser. Il faut excuser les journalistes ou bien les journaux qui tombent dans ces erreurs, qui sont rectifiées et rectifiables. Il ne faut pas s'engager dans les sanctions. Parce que j'ai écouté, hein, dans une émission sur une chaîne étrangère, un auditeur peindre en noir le travail des journalistes, en traitant les journalistes de calamiteux, de n'avoir pas des preuves de leurs informations, de commettre des fautes d'orthographe, etc. Je me suis senti amenuisé parce que je me suis dit, est-ce que nous sommes vraiment au Togo? Ou cet auditeur de RFI, est-ce qu'il ne lit qu'une catégorie de journaux ou bien un journal qu'il traite de cette façon? Mais ce n'est pas la réalité. Dans toutes les professions, il y a les brebis galeuses. Dans la médecine, il y a des erreurs médicales. Dans l'armée, il y a ceux qui commettent également des dérapages. Dans tous les domaines, il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des erreurs aussi. Mais peindre totalement en noir la presse togolaise comme si elle était à la queue du peloton. Mais je connais la presse d'un certain nombre d'états, de pays que j'ai visités. Le Togo n'est pas à la queue du peloton en matière d'efforts à faire bien le travail. Donc, je ne connais pas les motivations de l'auditeur qui a peint en noir et qui même a insulté la presse togolaise. Mais je pense qu'il devrait ouvrir beaucoup plus son intelligence à beaucoup plus d'organes de presse, de journaux. Il devait encore renfermer sa façon, son regard sur la situation et comprendre que la presse togolaise n'est pas aussi calamiteuse comme il le pense et comme il le dit de façon publique.
Carlos Koblavi-Ketou, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal indépendant Express, également président du patronat de la presse togolaise. Merci pour votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie et bon travail à vous.
Le 14 avril 1967, 14 avril 2017, 50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit.
50 ans de dictature là, ça suffit.
Assassinats politiques, crimes économiques, Kabézi au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assassinat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vins dans la dignité. Ceci est un message de la Coordination des Mouvements et Associations de la Diaspora, GFSA, en Suisse, Cause Commune, au Canada, USDCT, aux USA, Mouvement Mobilisons-nous, aux USA, Patriotes Togolais, aux USA, Groupe Sursaut Patriotique Togo, aux USA.
Oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, milagro, welo, oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, milagro,
Eh bien, amis auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Donc, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. On se retrouvera certainement sur Radio Kalka et nos radios partenaires. Bonne continuation de programme sur nos radios partenaires FM Liberté à Chicago et Eben Radio en France. Bonsoir.
Que tu fais ton boulot avant de m'abattre. que tu as un cœur. Avant de nous terminer, regarde-moi encore une fois. Le Congo que tu embrasses, la Libye que tu as détruit, la Syrie qui a péri, l'Irak qui se
soldat,
cherche.
Ne me tire pas, soldat, ne m'attends pas, soldat, ne me tire pas, soldat, ne m'attends pas.
Frère en âme, c'est moi la main, les fusils en bandoulière. Détruit la Syrie qui a péri, l'Irak